La coquette d'Amsterdam par René Pujol. L'agence Burns promettait à tout venant, par petites annonces et par petites affiches, de mener infailliblement à bien les enquêtes les plus délicates et de résoudre les problèmes les plus compliqués de la vie sentimentale ou commerciale. Tout cela, le plus discrètement du monde et à des prix dérisoires. Monsieur Thomas Burns était un monsieur maigre et triste qui semblait toujours souffrir des dents ou des pieds. Il travaillait, si ce verbe sacré pouvait s'appliquer à son métier, dans un cabinet de la rue des Martyrs, en vérité fort bien tenu. Un groom criblé de taches de rousseur et friand de mots croisés composait tout son personnel. Cet après-midi, M. Thomas Burns écoutait la confession d'un certain M. Garrigue, qui n'avait pas du tout l'air content de son sort. Pourtant, il était gras et vêtu sur mesure. « Je suis le majordome du marquis de Flésias, » racontait M. Garrigue. « Vous connaissez sans doute le marquis de Flésias ?» M. Thomas Burns hocha mélancoliquement la tête. « Oui, mine d'argent au Mexique. Très riche, un peu fou. Le marquis a pleine confiance en moi. A-t-il raison ou tort de vous accorder cette confiance ?» Cette question posée d'un ton morne surprit le majordome. « Il a raison, » affirma-t-il après un silence réfléchi. Et tout de suite moins sûr de lui, ou du moins il a eu raison jusqu'à la semaine dernière. Hein. C'est à cette date que vous l'avez trahi. Je l'ai trahi sans le trahir, monsieur. Il ne s'agit que d'une imprudence. Malheureusement, elle peut me coûter ma situation et ma liberté. Thomas Burns apprécia avec flegme. C'est donc une imprudence chère. À combien estimez-vous la réparation de cette imprudence? Je vous demande cela tout de suite, car si nous ne nous entendons pas sur le tarif, il sera superflu de nous lancer dans un récit qui ne pourra pas m'intéresser.
Je ne suis pas riche, dit alors M. Garrigue.
« Moi non plus, » riposta Thomas Burns. « Je me fais payer en deux fois. Le prix préalable de la consultation est de 500 francs. Qu'appelez-vous, consultation ? Eh bien, j'écoute le client. Je me fais une opinion sur le cas qu'on m'expose, puis je donne un bon petit conseil. »
M. Garrigue fit la moue. « C'est tout ?
Oui, monsieur.
Que voudriez-vous de plus ?
Quand vous consultez un médecin, vous n'êtes pas sûr qu'il vous guérira. Un avocat, vous n'êtes pas certain qu'il gagnera votre procès. C'est le temps, la valeur professionnelle du spécialiste que vous rémunérez. Le traitement ou la plaidoirie font l'objet d'un calcul ultérieur. En somme, si je vous donne 500 francs, Thomas Burns acheva froidement, je ne vous promets rien en échange. Si mes conditions n'ont pas la chance de vous plaire, mon groom vous reconduira sur le palier avec une grande politesse. Après une brève hésitation, M. Garrigue extirpa de son portefeuille 5 billets de 100 francs que Thomas Burns laissa en vrac sur la table. « Allez-y, » dit le détective en se renversant dans son fauteuil et en fermant à demi les yeux. « Soyez le plus intéressant possible. » Et M. Garrigue parla. Le marquis de Flésias, avant de partir pour les Canaries avec une cinquantaine d'invités, sur son yacht, le crapaud bleu, m'a chargé d'aller à Amsterdam prendre livraison d'une bague et d'une paire de boucles d'oreilles. Ces diamants sont destinés à la marquise pour son anniversaire, le 17 de ce mois. Par conséquent, dans 10 jours. Ils valent une dizaine de millions.
« Ah !» dit calmement Thomas Burns.
« Je n'ai jamais fait un pareil cadeau à mon épouse. Il est vrai que je suis célibataire. »
M. Garrigue ne goûta pas beaucoup cette boutade, mais il avait payé d'avance et il continua donc.
« J'ai horreur de voyager seul. » J'emmenais avec moi ma nièce qui, justement, prenait ses vacances et n'avait jamais vu Amsterdam. Et quelle est la profession de mademoiselle votre nièce ?
Manucure.
Manucure, répéta pensivement le détective, et elle s'appelle Edith Garrigue. C'est donc la fille de votre frère ?
Oui, monsieur.
Je vous demande ces renseignements par simple curiosité, dit Thomas Burns. Tout cela ne me servira peut-être à rien, mais enfin, je suis consciencieux.
Monsieur Garrigue fronça les sourcils.
« Décidément, il avait été mal inspiré de choisir cette agence. »
Il poursuivit, malgré tout.
« J'eus le tort de montrer les bijoux à ma nièce. Elle les trouva splendides. Elle me supplia de lui laisser porter la bague et les boucles d'oreilles un soir, rien qu'un soir. Je l'aime comme ma fille. Je ne sais rien lui refuser. Je commis l'imprudence d'accéder à son désir. »
« Et on lui a volé les diamants, »
fit Thomas Burns.
« Oui, monsieur.
Dans sa chambre, au dancing de l'hôtel. » Il y a eu une panne d'électricité. Elle n'a duré que quelques secondes, mais elle a suffi, hélas. Mademoiselle, votre nièce n'a pas crié. Elle n'a pas pu.
dans l'obscurité, elle a senti une main se plaquer sur sa bouche, et on l'a dépouillée en pleine salle avec une dextérité extraordinaire, sans lui faire de mal, du tout. On n'a pas arraché les boucles, on les a défaites.
« C'est gentil, ça, » admira Thomas Burns.
« Est-ce que Mademoiselle Edith est jolie ?»«
Mais oui, » balbutia M. Garrigue.
« Alors c'est une bénédiction que ses oreilles soient intactes encore. Je parie qu'il dansait au moment où on a commis le vol.
En effet, elle dansait.
Une rumba, un fox, je l'ignore.
Tant pis.
C'était uniquement pour recréer l'ambiance de la scène. Quand la lumière a été rétablie, le danseur de Mademoiselle votre nièce avait sans doute disparu.
Non, monsieur. Ce n'est pas lui qui a fait le coup. Comment pouvez-vous l'affirmer?
Le pauvre garçon a demandé lui-même qu'on le fouille. C'est un champion de tennis très connu, très honorable.
On peut être honorable et voleur, observa l'impassible Thomas Burns.
Nous sommes sûrs de son innocence. Edith a mordu de toutes ses forces la main qui la bâillonnait. Son agresseur a exhalé un gémissement de douleur. Or, le danseur d'Edith ne portait trace d'aucune ecchymose.
Naturellement, vous avez aussitôt porté plainte.
Monsieur Garrigue baissa la tête.
Non,
avoua-t-il, j'ai eu peur du scandale. J'ai eu l'espoir d'un miracle. Les diamants sont assurés contre le vol.
La compagnie paiera.
Mais avouer leur disparition, c'est me condamner moi-même, me faire envoyer, mêler ma nièce à une enquête judiciaire. Vous comprenez, monsieur?
À merveille, dit M. Thomas Burns.
Ce qui me semble moins clair, c'est votre présence à Paris, dans mon cabinet, alors que le larcin a été commis à Amsterdam. Une heure après l'attentat, j'ai reçu un coup de téléphone à l'hôtel. Un inconnu m'a dit à peu près textuellement « C'est moi, le voleur. » Je sais que ces trois diamants sont presque impossibles à vendre. Je suis prêt à vous les restituer contre 100 000 francs.
« Si peu, » s'étonna candidement Thomas Burns.
M. Garrick sursauta. « Comment si peu? C'est une somme énorme pour moi. Pour la trouver, il faudrait que je vende ma propriété de Beaugency. »
« Joli pays, » apprécia Thomas Burns.
« C'est là que vous avez l'intention de prendre votre retraite ?»
Je n'ai plus cet espoir.
Le gangster m'a recommandé de regagner Paris et de lire soigneusement les petites annonces des journaux du soir.
C'est un travail fastidieux, dit Thomas Burns.
C'est par une petite annonce que le chenapan me fixera rendez-vous, ou m'indiquera la façon de lui verser la rançon. Alors je me livre à vous.
Pincez cette crapule.
Envoyez ce coquin au bagne. Vengez-moi.
Très sérieux, très grave, répliqua Thomas Burns.
Ne vous a-t-on pas défendu de recourir à des gens de mon espèce?
Oui, monsieur, mais c'est ma suprême chance.
La voix de M. Garrick tremblait. Il avait envie de pleurer.
Thomas Burns réfléchit posément.
Je risque ma peau et j'y tiens, dit-il. Je n'ai pas l'âge de quitter brusquement mes contemporains pour un monde qui n'est peut-être pas meilleur.
Vous refusez de vous occuper de moi? Et vous gardez mes 500 francs?
Le détective calma son interlocuteur d'un geste placide. « Ne vous énervez pas. Je n'ai pas dit non. Et je ne le dirai pas si vous êtes généreux.
Je le serai dans la mesure de mes moyens.
Si je ne réussis pas, reprit Thomas Burns, vous ne me devrez rien.
Si je réussis, vous me verserez 50 000 francs. »
M. Garrick se lamenta. « C'est trop, monsieur, vous me ruinez. »
Mais le détective ne se laissa pas attendrir.
« Ne soyez pas avare. 50 000 francs ou rien. Je n'exagère pas. Je suis même trop modeste. » Si cela vous paraît excessif, bon vent.
Si vous acceptez, je vais vous faire signer un petit papier.
Est-ce oui ou est-ce non?
C'est oui, exhala M. Garrigue.
Je suis étranglé.
Très bien, conclut Thomas Burns. Vous faites une bonne affaire.
Il va falloir que j'hypothèque ma propriété.
Tout en tirant d'un tiroir une feuille de papier timbré, Thomas Burns eut un léger sourire.
Ne dramatisez pas, cher monsieur. Je suis sûr qu'en fouillant avec soin dans vos poches, vous trouverez la somme sans écorner votre patrimoine.
« Évidemment, » murmura le majordome,
« mais après il ne me restera plus grand-chose. »
Lorsque M. Garrick eut quitté l'agence, Thomas Burns relut posément le papier timbré, le rangea dans le coffre-fort, empocha les 5 billets de 100 francs, puis ouvrit une bibliothèque garnie de livres de droit. Le meuble entier roula sur ses gonds, découvrant une porte que le détective ouvrit sans frapper. Il pénétra alors dans un studio moderne et coquet donnant rue Navarin, au coin de la rue des Martyrs. Un jeune homme élégant et sympathique, debout devant la fenêtre, regardait dehors avec attention. Ce studio constituait la seconde partie de l'agence Burns.
Un microphone permettait d'entendre tout ce qu'on disait de l'autre côté de la muraille. Et chaque fois que M. Thomas questionnait un client, son associé, Bob Leclerc, était à l'écoute. Nul ne soupçonnait dans le quartier que M. Leclerc, importateur-exportateur, avait parti lié avec M. Burns. Cela permettait aux deux hommes de dépister sans difficulté ceux qui épiaient leurs faits et gestes. Les intéressés cherchaient en vain comment Thomas Burns, qui quittait rarement son bureau, était si minutieusement renseigné sur ce qui se passait au loin. Le pseudo-importateur entrait et sortait sans éveiller l'attention de personne. La combinaison durait depuis 3 ans, et nul ne se doutait encore de son existence. Thomas Burns s'allongea dans un pullman et attendit. « Ça y est, » fit enfin Bob. « Le type a rejoint sa nièce. Ils s'en vont, bras dessus, bras dessous. Elle est très gentille, mademoiselle Edith. » Après ce jugement esthétique, il vint s'asseoir devant son associé. Fin, rassé, il avait plutôt l'allure d'un acteur de cinéma que d'un policier. Il alluma une courte pipe anglaise et se mit à fumer avec componction. « Drôle d'histoire, » dit enfin Thomas Burns. « Sans conteste, le majordome est sincère. Cela n'est pas douteux. » approuva Bob. Sa naïveté est touchante. Sur un petit coup de téléphone, il quitte Amsterdam en laissant son voleur nager dans des eaux calmes. « D'après moi, » répondit Bob, « le quidam ne l'a pas bluffé. Il est rentré lui aussi. Tu le crois, Paris ? Le contraire m'étonnerait. Prêt à échanger 10 millions contre 100 billets ? Pourquoi pas ? C'est un gain petit. Un idiot qui se contente de peu. Il n'a pas l'habitude des grosses affaires. Selon toi, il aura l'imprudence de donner rendez-vous à sa victime ? Au risque de tomber dans la gueule du loup ? Je l'espère, sans trop de conviction, fit évasivement Bob. Il est dans ce cas réellement trop stupide, s'exclama Thomas Burns avec mépris. Cela vaut plus de 100 billets. Bob haussa les épaules. Mon vieux Tom, tu as une grave déformation professionnelle. 100 000 balles, c'est quelque chose. La preuve, c'est que tu te contentes de la moitié. Je me contente même de 25 louis. « Je n'ai pas la conviction que nous découvrirons le poteau rose. »« Ne sois pas pessimiste, » sourit Bob. « Monsieur Garrick va me payer le roadster dont j'ai envie depuis longtemps. » Thomas Burns se départit de son indifférence affectée. « Tu as déjà des soupçons, Bob ?»« Je sens que je vais en avoir, Tom. »« Sur qui ?»« Sur la race humaine entière. » Cette réponse déçut Thomas Burns. « Le champ est vaste, » grimaça-t-il. « Tu seras centenaire avant d'avoir découvert le coupable. » À moins qu'il n'y mette un maximum de bonne volonté. Réfléchis, tu n'as aucun indice. J'en aurai, il suffit d'en créer. Ne sois pas mystérieux comme ça, s'impatienta l'associé. Si le peu que tu sais t'a déjà permis d'échafauder un plan, fais-m'en part. Je suis discret par superstition, laisse-moi manœuvrer. J'ai besoin de 48 heures. Pour commencer, rentre chez toi tranquillement, sans faire attention aux gens qui peuvent te suivre. Me suivre, pourquoi ? Je ne sais pas. « Pars sans te retourner, pars. Quand te reverrai-je ? Probablement demain. Tu devrais au moins me dire ton plan. Pas si bête, tu le vendras peut-être à l'ennemi. Battant, quelqu'un t'attend. Qui ? Mystère et bec de gaz. Surtout pas un coup d'œil en arrière. Donne l'impression que tu es encore plus sot que nature. Merci, et à charge de remanche. » Thomas Burns, un tantinet vexé, regagna le cabinet de l'agence puis s'en alla. Respectueux de la consigne donnée par Bob, il descendit, sans se retourner, la rue des Martyrs jusqu'au carrefour Châteaudun. De son côté, Bob sortit par la rue Navarin avec l'allure du parfait flâneur. Il repéra sans peine, à 20 mètres de son associé, un jeune homme très brun, de taille moyenne, qui déambulait lui aussi avec une grande nonchalance. Il se maintint à même distance de Thomas Burns jusqu'à la rue Richelieu, où ce dernier avait son appartement. Là, il resta planté sur le trottoir, et quand il eut constaté que le détective ne redescendait pas, il revint sur ses pas. Il n'avait aucune raison de se méfier. Il se rendit directement à bar du faubourg Saint-Martin, où Bob l'abandonna aux délices de la belote. M. Garrick reparut à l'agence le lundi suivant. Il était toujours gras, mais sa graisse paraissait de moins bonne qualité. Thomas Burns lui avoua avec son ordinaire sang-froid que les recherches n'avançaient pas. Jusque-là, aucune petite annonce relative aux 3 diamants n'avait paru dans les journaux du soir. « Et le marquis arrive dans 5 jours !» se lamenta le majordome. « Qui puis-je » dit le détective. « Je me sens incapable d'interroger un à un tous les habitants de Paris. Cela prendrait trop de temps. Je fais surveiller en vain les marchés de pierres précieuses.
Votre voleur se tient quoi ?
Monsieur Garrigue mit les choses au point.
En somme, monsieur, vous m'avez escroqué 500 francs. C'est tout ce que vous avez fait.
Exactement, acquiesça l'imperturbable Thomas Burns.
Ce cynisme suffoqua monsieur Garrigue.
Vous avez du toupet, s'écria-t-il.
Vous n'imaginez pas combien il en faut dans notre métier, reprit le détective.
Puisque vous vous moquez de moi, je vous retire l'affaire.
Si je comprends bien, précisa-t-il, vous renoncez à récupérer le gage ?
Je ferai ce que je voudrais. Cela ne vous regarde pas. Gardez mon argent et laissez-moi tranquille.
Quand le marquis débarquera, je le mettrai au courant.
Voilà, il ne me mangera pas, après tout.
C'est dommage de perdre une si bonne place, jugea Thomas Burns,
car vous serez ignominieusement chassé.
Avec un certificat peu élogieux,
je suis résigné.
Accusé de complicité,
je me défendrai. Mon passé est celui d'un honnête homme.
Bel argument, railla le détective.
Un gangster est un parfait honnête homme jusqu'à la seconde où il cesse de l'être.
Votre patron vous reprochera avec raison d'avoir perdu un temps précieux.
Ne vous préoccupez pas des reproches de mon patron,
riposta M. Garrigue. Je ne remettrai jamais les pieds dans votre officine louche.
Du bout des doigts, Thomas Burns tapota la table.
Pas louche, M. Garrigue. Vous êtes dans une maison de cristal.
J'excuse votre nervosité. Je la partage dans une certaine mesure.
Mais vous seriez infiniment gentil de ne pas me chagriner en doutant de ma conscience. Vous me faites de la peine.
Vos discours ne m'intéressent pas, éclata soudain le majordome.
Rendez-moi le papier que vous m'avez fait signer, et que tout soit fini.
Thomas Burns secoua la tête. Vous ne pouvez pas m'interdire de collaborer avec vous au triomphe de la vérité et de la justice.
Vous ne me verrez plus, puisque tel est votre désir, mais je vous consacrerai toujours dans l'ombre les magnifiques qualités professionnelles auxquelles je dois ma brillante réputation dans les 5 parties du monde.
Il acheva sa phrase dans la solitude, car, exaspéré par ce persiflage, M. Garrigue était déjà parti.
Bob et son associé, dînant à Montparnasse, devisaient sans agitation.
« C'est la frousse qui trouble M. Garrigue, » dit Bob. « L'annonce n'a pas paru, mais il a reçu certainement une lettre de menace. »
On lui a promis quelques balles dans la peau,
mais pas toute relation avec l'agence Burns.
C'est possible. Tu sais d'où proviennent ces menaces ?
Oui, répondit Bob sans hésiter. Qu'est-ce que tu vas faire ?
Brusquer les événements.
Nous n'avons pas les moyens de renoncer à 50 000 francs.
Surtout que j'ai envie de m'offrir sur le champ un verre d'Armagnac.
Cela coûte 6 francs.
Toujours des folies, fit Thomas Burns.
Quand dois-je convoquer M. Garrigue pour lui rendre la bague et les boucles d'oreilles ?
Demain soir, à 5 heures.
Quand Bob Leclerc pénétra chez Anatole, le coiffeur à la mode, un gérant, vêtu de blanc comme un chirurgien prêt à torturer un patient, s'empressa.
« La barbe ou les cheveux ?»«
Les mains, »
dit Bob.
« J'ai téléphoné pour voir Mademoiselle Edith. »«
Bien, monsieur.
Donnez-vous la peine de vous asseoir. »
Edith arriva aussitôt avec ses onguents, ses grattoirs et ses polissoirs.
Elle était charmante, quoique un peu trop fardée.
Elle ne reconnut pas, et pour cause, le client qui réclamait ses soins, mais lui décocha un sourire à damner un saint.
Bob ne tarda pas à attaquer.
« Vous semblez soucieuse, mademoiselle Edith. »
La jolie manucure tressaillit.
« Moi ? Non, monsieur. »«
Si, insista Bob, vous êtes préoccupé. »
« Je vous assure que non. »«
Vous avez tort de manquer de franchise. »
continua Bob, « je suis très serviable. »« Je puis vous aider à recouvrer votre tranquillité. »
Il ajouta en baissant la voix.
« Sans que cela coûte trop cher à votre oncle. »«
Aïe ! Vous m'avez piqué, mademoiselle. »
C'est ma faute.
Je vous ai donné une émotion. Continuez votre travail sans angoisse et sans me blesser. Je vous attendrai ce soir vers 7 heures à la taverne royale. À ce moment-là, tout sera arrangé, terminé. Mais je vous recommande de ne voir personne avant moi. De ne pas parler de ce rendez-vous. Vous m'entendez ?
Edith ne répondit à cette question que par une autre question.
Qui êtes-vous ?
Votre bienfaiteur,
chuchota le singulier client.
Si vous m'écoutez, vous redeviendrez ce que vous étiez il n'y a pas encore longtemps.
Une bonne fille coquette, mais pas méchante.
En tout cas, incapable de receler des diamants volés.
Oh, cette fois vous m'avez coupé.
Je ne dirai plus un mot jusqu'à la fin.
Comme je n'ai que 5 doigts à 7 mains, je préfère les conserver tous.
Je suis habitué à eux depuis ma naissance.
Prétendre qu'Edith accomplit remarquablement sa tâche serait de la flagornerie. Mais Bob ne se montra pas exigeant et il donna un bon pourboire.
Tout en le glissant à la manucure, il insista discrètement. 7 heures, taverne royale,
sans prévenir personne.
Il sortit, mais n'alla pas loin. Il s'arrêta derrière une colonne de publicité. Quelques minutes plus tard, il vit sortir Edith. Elle sauta dans un taxi qui partit en hâte.
Bob sourit et se frotta vigoureusement les mains, comme s'il voulait faire du feu.
5 heures n'avaient pas encore sonné quand M. Garrigue, bousculant le groom au mot croisé, se précipita chez Thomas Burns.
« On m'a cambriolé !»
glapit-il. Il s'affala sur un siège. Thomas Burns reçut la nouvelle sans broncher. «
Soufflez, cher monsieur, soufflez » dit-il avec sollicitude.
« Quand l'événement s'est-il produit ?»«
Au début de l'après-midi. »
« Sur le marquis de Flésias ?»«
Oui. »
« Avenue Henri Martin. Les bandits se sont introduits par le jardin. »«
Qu'est-ce qu'ils ont emporté ? Des bibelots ? Des tableaux ?»«
Je ne sais pas. »
dit piteusement le majordome.
« On a bouleversé ma chambre et celle de ma nièce. »«
Ah ! Mademoiselle Edith habite chez le marquis ?»«
Oui, monsieur. »
« Et le marquis le sait,
bien sûr. »«
Très bien, très bien. »
« Vous ne vous êtes pas rendu compte de ce qu'on a emporté ?»«
Non, pas encore. À première vue, rien ne manque. »
Thomas Burns s'inquiéta.
« On n'a pas escamoté les 50 000 francs que vous me devez ?»«
Je les ai toujours sur moi, »
répliqua naïvement M. Garrigue. Mais il se ravisa.
« Comment ? Que je vous dois ?»«
En vertu de notre petit contrat, »
expliqua Thomas Burns.
« Vous pouvez les préparer. »
« C'est pour cela que vous m'avez convoqué. »«
Mais oui !»
M. Garrigue se leva, l'air digne et tragique.
« Savez-vous où je vais de ce pas, monsieur ?»
Le détective dit avec innocence.
« Boire un boc ?»«
Chez le commissaire de police. »«
Ce n'est pas là qu'on sert de la bière. »«
Je vais tout lui raconter. »«
À quoi bon, puisque tout est fini ?»
s'étonna Thomas Burns. « Vous me donnez 50 billets, je vous donne 3 diamants, et nous nous quittons les meilleurs amis du monde. »
Et sous les yeux de M. Garrigue, blême d'émotion, il déposa sur son buvard une bague et 2 boucles d'oreilles.
« Maintenant, » ajouta-t-il en souriant, « ne les prêtez plus à votre nièce pour qu'elle les égare au bal musette. Cette fois, ça vous coûterait 100 000 francs. »
Le majordome tendit vers les pierres étincelantes de mains qui tremblaient.
« Stop !»
ordonna Thomas Burns, donnant, donnant.
« Je suis désolé de prélever une dîme sur vos économies, mais j'ai confiance en vos talents. » Vous aurez vite récupéré cela aux dépens de ce cher marquis, qui a tant d'argent et tant de désordre.
À la terrasse de la taverne royale, Bob Leclerc faisait une petite conférence à la jolie manucure dont le visage se crispait d'angoisse.
Paris est plein de dangers pour les jeunes filles comme vous, qui réclament la vie plus qu'elle ne doit logiquement leur donner. Vous vous êtes laissé prendre au filet d'un garçon charmant, séduisant mais de moralité douteuse. Et quand je dis douteuse, je le flatte. Cet individu vous tient par la terreur. C'est curieux, comme les gens honnêtes ont peur de ceux qui ne le sont pas. Cela devrait pourtant être le contraire. C'est votre don Juan du Faubourg qui a conçu le vol et qui l'a perpétré. Si vous aviez sacrifié un lobe de vos ravissantes oreilles, je ne vous aurais pas tout de suite soupçonné. Mais il faut une extraordinaire complaisance pour admettre qu'au beau milieu d'un dancing, un cuidam couple l'électricité, s'élance sur la piste et dévisse patiemment les bouchons de carafe de sa victime. J'ai préféré m'imaginer que vous lui aviez spontanément confié les diamants, et je ne me suis pas trompé. Après, tout s'est déroulé selon un processus enfantin. Votre complice et vous avez multiplié les gaffes. Retour à Paris, faute. La petite annonce qui ne passe pas, faute. La lettre de menace glissée par vous sous la porte de votre oncle, faute encore, faute toujours. Ma démarche d'aujourd'hui n'a pas été faite pour le seul plaisir de vous intriguer. Dès que je vous ai alerté, vous avez couru vers votre chambre. Donc, les diamants étaient cachés là. Il m'a suffi d'aller les cueillir dès que vous êtes revenu au magasin. À 5 heures précises, votre oncle est rentré en leur possession. Soyez persuadé qu'il ne les laissera plus traîner. Il y a encore de la fraîcheur dans votre âme. Vous n'avez pas laissé les bijoux dans les mains du chenapan. Et si votre oncle avait refusé de payer la rançon, vous lui aurez rendu les 10 bijoux à l'arrivée du marquis. Par bonheur, je suis intervenu avant. J'ai tant besoin d'argent. » Edith restait tête basse. Il lui releva doucement le menton. « La leçon suffira, j'espère. »«
Oui, monsieur, »
murmura la jeune fille. Bob scruta les yeux bleus qui papillotaient. « Je n'en suis pas sûr. Malgré mon conseil, vous avez prévenu celui qu'il ne fallait pas prévenir. Inutile de mentir, je le connais, il est là, devant nous, sur le trottoir. »
« Je suis navré, car la façon dont il me regarde semble indiquer qu'il ne m'aime pas. »
Serait-il jaloux ?
Il a tort de taquiner ses Browning. Un accident est si vite arrivé.
Rejoignez-le, mademoiselle, et expliquez-lui que moi aussi,
j'ai un revolver, et que je tire remarquablement à travers l'étoffe de mon veston. C'est ma spécialité. S'il le faut, je n'hésiterai pas à m'imposer les frais d'un stoppage.
Quand vous aurez rapporté mes propos à ce petit monsieur, votre vie va se décider en quelques secondes. Si vous revenez vous asseoir à ma table, cela signifiera que vous sollicitez ma protection.
Je ne vous la refuserai pas.
Au contraire, si vous partez avec votre camarade, je comprendrai, et je n'insisterai pas.
Allez, mademoiselle.
Edith s'éloigna en chancelant.
Bob la vit rejoindre le jeune homme brun qui l'avait filé au début de son enquête.
Ils causèrent un instant. Puis le gangster partit à grands pas.
Edith Garrigue hésita.
Enfin, lentement, comme à regret, elle s'éloigna et se perdit dans la foule.
« Dommage, » fit simplement le détective.
C'était « La coquette d'Amsterdam » par René Pujol.